Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sporama sur VOA Afrique. Nicolas Pineau au micro. Comme tous les lundis soirs, on va refaire l'actualité sportive, bien évidemment centrée sur cette Coupe du Monde de football qui se déroule, c'est la dernière semaine en Russie. Vous nous laissez vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique et nous attendons vos appels en direct. 001 202 205 26 33 001 202 205 26 33 pour prendre vos appels en direct. On va saluer nos intervenants habituels, le célèbre Jules Valentango et son coup de sifflet que vous entendez tous les matins sur VOA Afrique depuis Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On va saluer Amine Mirouk qui est avec nous depuis le Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Il est revenu de Russie à Medinsi en direct de Dakar. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
On me fait signe qu'on a également en ligne Thierry Kamoundi depuis Kinshasa, le rédacteur en chef de notre station partenaire Top Congo FM. Bonsoir Thierry. Voilà, un petit décalage avec Kinshasa, mais il nous entend. Allez, c'est le grand rendez-vous à Saint-Pétersbourg. Le coup d'envoi à 18h, temps universel ce mardi de la première demi-finale de la Coupe du Monde France-Belgique. Aujourd'hui, lors de l'ultime échauffement au stade de Krestovski, Kylian Mbappé était absent. Benjamin Pavard et N'Golo Kanté ont couru en marge du groupe. Toutefois, aucun forfait n'est à prévoir dans les rangs tricolores, selon Didier Deschamps. Je vous propose d'écouter le sélectionneur de l'équipe de France qui s'est exprimé cet après-midi en conférence de presse. Il revient bien évidemment sur ces deux équipes, la France et la Belgique, qui se connaissent bien.
Ben eux, ils nous connaissent, on les connaît. La particularité, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs de mon équipe qui ont des partenaires en face, en club. Donc, ils se connaissent. L'avantage des deux côtés, ils peuvent s'apprécier, ils peuvent même avoir une bonne relation ensemble, mais... L'espace du match, le temps qui durera, évidemment, chacun de son côté fera en sorte que, et surtout d'une autre, de pouvoir prendre l'opportunité qui est devant nous de pouvoir accéder à cette finale de Coupe du Monde.
Voilà, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. Le grand match, c'est demain. Alors, on va vous donner la parole, les uns et les autres. Peut-être aller du côté de Dakar, Amdinsi, hein, qui revient de la Russie. Amédine, on le disait, sur le papier, la France a un peu plus d'expérience avec son titre de championne du monde 98. Les Belges n'ont pas atteint le niveau des demi-finales depuis 1986, mais la confiance côté belge, bien évidemment, avec cette victoire sur le Brésil. Comment vous abordez cette demi-finale?
Je pense que ce sera une demi-finale indécise, hein, puisque ces deux nations, quand même, qui ont marqué les esprits durant cette phase finale de la Coupe du Monde. Et si on remonte un peu l'histoire, Nicolas Pinon, on ne voit pas quand même les équipes se départager comme ça, parce que ce sera la 74e confrontation entre la France et la Belgique pour un bilan de 30 succès pour les Belges, puisque beaucoup de gens pensent que la France a beaucoup de victoires. Non, si on interroge les chiffres, la Belgique a plus de victoires, 30 succès et 24 victoires pour les Français. Si on regarde aussi sur cette Coupe du Monde, ça va être très difficile puisque les Belges sont en train quand même de faire une Coupe du Monde exceptionnelle avec leur match référence qu'ils ont joué contre le Brésil. Si on regarde le trio magique qui est composé de Eden Hazard, qui est bien épaulé par Lukaku, mais également certains Brune, on se rend compte que cette équipe de la Belgique est en train quand même d'écrire les plus belles pages de son histoire, puisque cette équipe de la Belgique peut battre l'équipe de la France et peut vraiment remporter cette Coupe du Monde, puisque avec la Belgique, le danger vient de partout, hein, puisque la Belgique qui a déjà la meilleure attaque avec 14 buts, et si on regarde ces 14 buts, les buteurs sont différents, que ce soit Hazard, que ce soit Lukaku, que ce soit Serani. Chacun des joueurs belges peut marquer, même leur capitaine compagnie peut marquer. Donc attention à cette équipe de la France qui aura un adversaire redoutable, Nicolas Pineau.
Merci beaucoup. Amédine, si on va partir du côté de Jules Valentin. Jules Valentin, votre avis sur cette demi-finale? Pour le moment, pas d'inquiétude, hein, même si Kylian Mbappé ne s'est pas entraîné ce soir. L'entraîneur français assure qu'il sera bien présent, le champion français. C'est inquiétant selon vous le fait qu'il ne soit pas présent à la dernière séance la veille du match?
Non, je ne pense pas ça. C'est juste de, l'entraîneur est très prudent et il gère bien son effectif depuis le début de la compétition. Il ne veut prendre aucun risque. Mais je ne pense pas qu'il y ait un problème de santé ou un problème physique. Bon, alors là, pour ce qui est du match lui-même, le match va dépendre très étroitement du scénario parce que la France aligne comme... elle a souvent, disons que, été, lorsqu'elle a fait des grandes compétitions, à ligne, un milieu de terrain ultra défensif avec trois récupérateurs, ce qui signifie que nous allons jouer en quelque sorte la patience et attendre la faille et jusqu'au bout, là où on pourra faire la différence. C'est un peu ça du côté français. Donc, si la Belgique arrive à marquer un but, la première, alors le match va se libérer et les Belges auront plus de chances. Mais je crois que si on reste sur cette dynamique, les Français sont très réalistes en attaque. Il ne leur faudra pas beaucoup d'occasions pour faire la différence.
Merci beaucoup, Jules Valentin. Alors, évidemment, les médias français se sont focalisés ces dernières 24 heures sur le rôle de Thierry Henry, bien évidemment, le grand attaquant français qui a pris sa retraite il y a quelques années maintenant, devenu consultant, mais surtout entraîneur adjoint en charge des attaquants pour la Belgique. Et bien évidemment, il aura un rôle si particulier demain aux côtés des Lukaku et des Hazard ou encore de Bruyne, comme on le disait. On va, avant d'entendre les uns et les autres, on va écouter ce qu'en pensent les joueurs belges. On rappelle que Thierry Henry, c'est le champion du monde 98, champion d'Europe 2000 et surtout, c'est le meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 51 buts. Écoutons ce qu'en dit Kevin De Bruyne lors de la conférence de presse.
Il ne m'a rien dit qu'est-ce qu'il va faire. Peut-être il chante la Marseillaise. Ouais, je trouve normal. Mais à la fin, il n'a pas dit grand-chose sur l'équipe de France. Je pense que nous, on connaît les joueurs, beaucoup, ils jouent ensemble. Mais je pense pour lui, ouais, demain, c'est peut-être un peu difficile, mais il travaille maintenant pour la Belgique, il veut qu'on gagne. Et ouais, c'est juste la boulot, il a maintenant, c'est le foot.
Voilà, Kevin De Bruyne qui s'exprimait évidemment sur Thierry Henry. Amine Birouk, vous êtes à Casablanca au Maroc. Qu'est-ce que vous pensez de l'apport réel ou supposé de l'ancien champion du monde français auprès des attaquants belges?
En tout cas, il a fait énormément de bien à cette équipe de Belgique. C'est la meilleure attaque de cette Coupe du Monde. Lukaku a fait énormément de progrès. Vous l'avez vu lors du match face au Brésil, lorsqu'il a dézonné sur le côté droit, les déboulés, la puissance physique qu'il a apportée. On voit aussi que cette équipe belge a plus de variété dans le jeu. Roberto Martinez y est certainement pour beaucoup de choses, mais tout ce qui concerne la finition est du ressort de Thierry Henry. Et on voit que ces Belges sont terriblement efficaces, qui sont capables de gérer leur temps fort de manière admirable, qui sont capables également de résister aux assauts des adversaires. Et aujourd'hui, s'il y a un point fort dans cette équipe de Belgique à distinguer, c'est la variété de ses offensives et surtout la capacité de ses joueurs à marquer. Il y a Lukaku qui a été décisif, il y a De Bruyne face à l'équipe du Brésil, et puis rappelez-vous du match face au Japon où même un Chadli en fin de contre-attaque à la 94e minute avait su faire mouche. Aujourd'hui, on a une équipe de Belgique qui a une chance historique d'aller en finale de la Coupe du Monde, de réussir à écrire une belle page des Diables Rouges. Et s'il y a un pied de nez à avoir dans cette histoire belge entre guillemets, ce serait qu'un Français puisse contribuer à cette qualification face à son pays natal.
Ouais, on va voir ça. On va prendre à présent évidemment Élise Ongpatin qui nous rejoint depuis Boïcon, c'est au Bénin. Élise, bonsoir. Élise, est-ce que vous nous entendez à Boïcon au Bénin? Voilà, visiblement compliqué avec Élise Ongpatin. On va continuer ce Sporama. On va se tourner, bien évidemment, vers la deuxième demi-finale de cette Coupe du Monde qui aura lieu mercredi soir. La demi-finale, évidemment, entre la Croatie, qui a évidemment fait tomber le pays organisateur, et l'Angleterre. On va se tourner vers Jules Valentin Gouet. Jules Valentin, bien évidemment, la Croatie qui espère rééditer 20 ans après. On se souvient de cette demi-finale perdue face à l'équipe de France, le double de Lilian Thuram. Évidemment, est-ce que les Croates vont pouvoir faire de même face, il est vrai, à une équipe d'Angleterre qui n'a pas atteint pareil niveau de la compétition depuis 28 ans, si je ne m'abuse. Est-ce que vous voyez les Anglais dominer les Croates, Jules Valentin?
Oui, en tout cas, en ce qui concerne au niveau de la valeur intrinsèque des joueurs, je crois qu'il y a peu d'équipes qui sont au niveau de la Croatie. N'oubliez pas que c'est un des grands réservoirs de l'ancienne Yougoslavie, c'est-à-dire l'équipe la plus fantastique du monde à l'époque, mais celle qui passait des raclées aux plus grands. Bon, et l'équipe qui nourrissait, un des foyers de football qui nourrissait le plus le football international en joueurs et en entraîneurs. Donc la Croatie en est l'héritière, mais seulement c'est son parcours qui inquiète, parce qu'elle a démarré très fort et elle a ralenti et joue des prolongations. Alors je ne sais pas si la récupération physique sera au rendez-vous, mais les Anglais, c'est tout le contraire. Eux se sont économisés pratiquement jusque-là et ils ont rencontré des adversaires qui les n'ont pas poussé jusqu'à leur dernier retranchement. Donc je crois que là-dedans, c'est la grande inconnue, c'est la fraîcheur physique des Croates pour ce match.
Oui, Amdinsi, il n'a pas tort, hein, Jules Valentin, les Croates hein, qui ont pioché hein, depuis évidemment les matchs du premier tour. Est-ce qu'on pense côté Croate encore s'en sortir sur les pénaltys?
Oui, ils peuvent s'en sortir déjà. Ils ont beaucoup de mérite puisque c'est une jeune nation arrivée à ce stade de la compétition à deux reprises durant 20 ans. Je pense que déjà c'est une bonne chose. Maintenant, pour se qualifier pour la finale, ce sera une sorte de la cerise sur le gâteau pour ces Croates qui ont déjà quand même réussi quand même leur compétition. Mais avec Luka Modric, je pense que tout est possible puisque cette équipe de la Croatie monte en puissance et ils sont très forts mentalement hein, pour gagner deux séances de derby consécutivement. Il faut quand même être très fort mentalement. Je pense que pour le moment, ils vont quand même négocier l'avant-dernière étape, puisque l'Angleterre aussi est une équipe, bon, certes, qui a gagné la Coupe du Monde en 1966, mais qui n'a jamais pu convaincre lors de ces phases finales de la Coupe du Monde. Donc, je pense que c'est jouable pour les Croates qui ont essayé quand même de jouer leur chance à fond et pourquoi pas inscrire leur nom pour la première fois de l'histoire en jouant une finale et pourquoi pas la gagner, parce que sur les quatre équipes qui restent, hein, on peut dire que chaque équipe a son sens et je pense que les Croates ont montré depuis le début de la compétition qu'on pouvait compter sur eux.
Merci beaucoup. On va retrouver, on me fait signe que cette fois-ci, la connexion est établie avec Boyko en Bénin pour retrouver Elisa Mpatine. Elisa, est-ce que vous nous entendez cette fois?
Oui, bonsoir Nicolas Pinault et bienvenue au Bénin.
Allez, alléluia, il est avec nous Elisa Mpatine. Elisa, on le disait, quatre équipes européennes dans le dernier carré, la France bien évidemment et l'Angleterre hein, qui ont déjà été sacrées championnes du monde, 20 ans pour la France, plus d'un demi-siècle pour les Anglais. Comment vous voyez voilà, le niveau de ces quatre équipes européennes, la prédominance du continent européen sur cette phase finale?
Bien évidemment, Nicolas, hein, pour le dire, puisque une fois encore, hein, depuis 2006, on retrouve encore des équipes européennes dans le dernier carré. Et c'est vrai que le Brésil n'a pas pris, en tout cas selon moi, n'a pas pris au sérieux hein, un adversaire comme la Belgique. C'est vrai que les Belges ont été accrochés par le Japon, mais finalement, se sont imposés. Les Brésiliens ne se sont pas vite rentrés dans le jeu. C'est du marqué contre son cas. A changé les données tactiquement et techniquement. Beaucoup d'expériences, les Belges ont su gérer cette rencontre, sinon le début. Elles pouvaient s'inviter dans ce dernier carré. Dommage, les Belges ont été plus forts, une équipe de trentenaire quand même. C'est une très belle génération qui a besoin de remporter un trophée. Mais en face, ce sera une équipe française de la 2018 en 2018. 20 ans après, une équipe française qui est plus que jamais favorite pour le titre final. Cette équipe hein, joue en fonction de son adversaire, nous l'avons vu depuis le début de ce tour-là. Ils ont déçu, apparemment, on a dit de pas le jeu, mais ils ont démontré que c'est pas au niveau du jeu, ils s'adaptent hein, selon l'adversaire qui est en face. Une fois encore, les Français ont démontré un quart de finale. Face à la Belgique, ce sera un peu difficile, hein, vu l'expérience car les joueurs belges avec beaucoup de joueurs qui évoluent dans le championnat anglais. En comprenant du fait, cette région même dans les pupilles, ce sera pratiquement un football british, mais attention à cette équipe française qui a un très grand milieu de terrain, le meilleur milieu de terrain de ce tournoi, c'est bien sûr au niveau de l'équipe de France, une volée au canté, intraitable depuis le début du tournoi. Blaise Matuidi, c'est vrai, il a été sur le banc lors de son premier match, mais il s'est racheté, il a démontré à Didier Deschamps qu'il faudra compter désormais sur lui, Paul Pogba, qui est présent, et surtout avec une belle attaque. C'est vrai qu'ils n'ont pas réellement un attaquant sur qui focaliser, mais ils ont eu un trio d'attaque très, très, très rapide, notamment Mbappé et Griezmann et Olivier Giroud qui est là pour dévier les ballons. Et du coup, on va faire avec cette équipe française. De l'autre côté, l'Angleterre, la Croatie, ce sera équilibré, mais attention à cette équipe anglaise, c'est vrai, depuis 1966, n'a plus fait grand-chose. Et déjà en 90, elle était déjà qualifiée pour le demi-finale. Une fois encore, les Anglais seront au rendez-vous. Attention à cette équipe anglaise avec une touche personnelle signée Gary Southgate qui a apporté énormément à cette équipe anglaise, il faut le dire. C'est quelqu'un qui est très, très confiant de la tâche qu'il reste. Face à la Croatie, ce sera difficile, mais attention à cette équipe anglaise.
Merci beaucoup. Et puis évidemment, la compétition est terminée hein, pour les 28 équipes qui y sont déjà éliminées. On a commencé à avoir des jeux de chaises musicales. L'Espagne, Hierro est parti. On annonce aujourd'hui l'arrivée de Luis Enrique comme sélectionneur de la Roja. Et puis c'est intéressant, on va se tourner vers Amine Birouk. Mouvement aussi possible du côté du Maghreb. L'Algérie va-t-elle enfin trouver un sauveur après évidemment Ali Lodzic et après Gourcuff? On sait que les Fennecs ont beaucoup de mal, bien évidemment, depuis cette Coupe du Monde 2014. Et ça bouge aussi chez vous, du côté du Maroc. Alors, Hervé Renard, stop ou encore, Amine?
C'est un jeu de chaises musicales, ou plutôt un jeu de poker menteur entre la Fédération Royale-Marocaine de Football et Hervé Renard. Il y a des messages laissés par Hervé Renard depuis quasiment la fin du deuxième match contre le Portugal, lorsque le sort des Lions de l'Atlas a été scellé, où il remerciait son staff, les supporters. C'est devenu un sélectionneur ultra connecté, donc sa communication passe résolument par les réseaux sociaux. Du côté de la Fédération, on s'en tient au contrat qui a été prolongé à la fin de la CAN 2017 et qui va jusqu'à 2022. On s'en tient aussi à la clause de résiliation de contrat en cas de décision unilatérale qui excéderait les 750 000 dollars par an. Faites le compte par rapport aux 4 années de reliquat. Et puis, d'un autre côté, on sait qu'à la Fédération, on n'a pas trop gobé ou trop bien digéré la défaite face à l'Iran parce que c'est elle qui fait très mal. Donc, d'un côté comme de l'autre, il va falloir quand même qu'on s'assoie à table et qu'on se dise les quatre vérités. Si Hervé Renard veut partir, il ne manque pas de courtisans. C'est en tout cas ce qui ressort de quelques infos qui ont été filtrées. Le journal très sérieux en Égypte, Lyoum Seb, est à 7e jour, qui parle d'une offre égyptienne de 120 000 dollars par an, par mois. On parle aussi de quelques offres venues du Qatar. On se rappelle aussi, je dirais, de l'historique d'Hervé Renard. Il n'a jamais dépassé plus de 2 ans là où il est passé en Afrique. Et puis, est-ce que les propos du président de la Fédération marocaine de football sont une piste lorsqu'il dit qu'avec ou sans Hervé Renard, le Maroc va continuer à bâtir une équipe nationale compétitive et que la continuité passe par les réformes qui ont été entreprises et par ce groupe de joueurs. On sait que les joueurs sont attachés au sélectionneur national, ils veulent sa continuité, déclaration de Mehdi Benatia, mais nul ne sait à quoi pense Hervé Renard et surtout quelles offres concrètes il en a.
Merci beaucoup hein, pour ce point. On va prendre un auditeur qui nous appelle depuis la Côte d'Ivoire, c'est Yao Marcelin. Bonsoir. Yao, est-ce que vous nous entendez ? Voilà. Yao Marcelin, une fois, deux fois, a jugé vendu. Hein, malheureusement, pas de Yao Marcelin. On va retrouver, bien évidemment, nos spécialistes. On le disait, retrouver Amdine Sy. Amédine, comment vous voyez ces jeux de chaises musicales, hein, notamment au niveau des sélections marocaines et algériennes qui s'annoncent ?
Voilà, Amine Birouk a parlé de Hervé Renard. Ça c'est Nicolas, ça c'est Amine, que Hervé Renard intéresse les Sénégalais. D'ailleurs, depuis l'élimination du Sénégal, on ne parle que de lui. Les gens parlent de Hervé Renard pour prendre la place de Ali Dizé. Le président de la fédération, Maître Augustin Senghor, a été obligé de monter au créneau pour défendre quand même Ali Dizé, qui a été le seul entraîneur noir de cette Coupe du Monde. Pour le président de la fédération, Ali Dizé va rester puisque son contrat a été renouvelé et il sera là jusqu'en 2019. Mais attention, attention, parce que quand les présidents sortent pour faire des déclarations, ce n'est pas toujours vrai, puisque d'après des sources bien autorisées, on sait que le Sénégal a déjà approché quand même Hervé Renard. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, c'est la photo de Hervé Renard qui a une femme sénégalaise qui n'est autre que l'ex-femme du défunt Bruno Messi. Donc ça intéresse les Sénégalais et les Sénégalais